Et salut à tous et bienvenue dans Parlons Ciné, l'émission où on évoque l'actualité et les sorties ciné de la semaine sur Radio Campus. À notre programme ce soir, les actus ciné avec un point sur le box-office où Madame Web s'est joliment pété la tronche, le palmarès des BAFTA 2024 où Oppenheimer a encore tout raflé, Ridley Scott aux commandes d'un biopic musical après Gladiator 2, puis les sorties du 21 février au cinéma avec L'Empire de Bruno Dumont, Une vie de James Howes, le successeur de Xavier Legrand et Vivant de Alix Delaporte en rattrapage de la semaine dernière, avant de terminer avec Sleep de Jason Yu et Le Royaume des Abysses de Tian Xiaopeng dans les rocos en bref. À la technique avec moi ce soir, Hugo. Bonsoir Hugo.
Bonsoir Gaël, comment vas-tu ?
Eh ben ça va bien et toi ?
Ça va, super.
Beau programme.
Oui, beau programme. Beau programme. Et on commence fort avec Madame Web.
Ouais, oui, bah là pour le coup, là ça va... Ouais. On a assez parlé la semaine dernière, Hugo, quand même. On va pas non plus trop s'éterniser sur Madame Web, quand même. On a déjà assez souffert comme ça. Mais non, du coup, Hugo, comme vous avez pu le comprendre, était avec moi ce soir pour m'accompagner durant cette petite demi-heure où nous parlons ciné. Et on commence du coup avec les actualités de cette semaine. Et pour commencer, un petit point sur le box-office s'impose avec Madame Web, justement, qui s'est bien pété la tronche pour notre plus grand plaisir. On a au moins ça de gagné avec un démarrage à 15 millions de dollars sur le territoire américain pour son premier week-end d'exploitation. C'est moins bien que Morbus qui avait fait 39 millions. Et c'est aussi... Ouais, c'est
beaucoup,
chaud, hein.
Beaucoup moins quoi.
C'est beaucoup, beaucoup moins. Et c'est aussi inférieur au score de Wonder Woman 1984 qui était pourtant sorti simultanément en salle et sur HBO en pleine pandémie en 2020. En revanche, Bob Marley One Love réalise le meilleur démarrage de la semaine aux US et en France aussi, avec un démarrage à 28 millions de dollars à l'issue de son premier week-end, ce qui n'est pas autant que Bohemian Rhapsody et ses 51 millions, pas mérité du tout, ou Elvis et ses 31 millions, plutôt mérité, ça va, mais plus que les 25,7 millions de Rocketman, qui était vraiment très bien, et ouais. Les 8,8 millions de Respect, le biopic très raté sur Aretha Franklin, si on reste dans le genre du biopic musical, dont One Love confirme le succès toujours actuel auprès du public américain ou français. Voilà. Mmh. Donc un box-office qui montre quand même bien la tangente actuelle en termes de popularité des genres. Hein. Le public musical a toujours vent en poupe. Par contre, le film de super-héros, c'est en train vraiment de devenir un vrai problème. Les gens en ont marre, je pense.
Réveillez-vous, Marvel.
Voilà, oui, bon là...
Sony aussi.
Ouais, bon là, vraiment, pour le coup, c'est mérité. Ouais, c'est mérité. Peut-être que ça va les dissuader de faire un truc après Kraven le Chasseur, parce qu'il y a encore Kraven le Chasseur qui arrive. Ouais. Lui, il est en route, on peut pas l'arrêter. Il va arriver, il va venir nous... Je sais pas, peut-être qu'il sera un peu meilleur.
Sur un malentendu.
Peut-être, il y a Ron Ter Johnson dans le rôle. Peut-être que ça sera mieux, voilà. Mais franchement, j'y crois plus tellement. Quoi. Donc bon, autant que ça se pète la tronche et qu'on en finisse vite. Hein, parce que voilà, il serait temps. Et maintenant, on passe au palmarès des BAFTA 2024, puisque avant les Oscars et les Césars, il y a eu les BAFTA, les Oscars anglais, dont la cérémonie s'est tenue le dimanche 18 février dernier à Londres, dont le palmarès vient confirmer sérieusement les pronostics dans la dernière ligne droite avec avant la grande messe du cinéma qui se tiendra à Los Angeles début mars. Et sans grande surprise, c'est encore Oppenheimer qui rafle la mise et s'impose comme le grand vainqueur de cette cérémonie, récoltant 7 BAFTA, dont meilleur film, meilleur réalisateur pour Christopher Nolan qui risque vraiment d'emporter l'Oscar. Oscar, je pense. Meilleur acteur pour Cillian Murphy qui risque aussi de l'emporter. Meilleur acteur d'un second rôle pour Robert Downey Jr., ce qui vient confirmer de plus en plus le sacre du coup de ce trio aux Oscars 2024. Juste derrière, on retrouve Pauvre créature de Yorgos Lanthimos sur la deuxième place du podium avec 5 BAFTA, dont meilleure actrice pour Emma Stone qui semble de plus en plus se rapprocher de la statuette aussi. Elle est en train de devancer Lily Gladstone qui était aussi l'autre grande favori dans cette catégorie avec Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese où elle est extraordinaire. Et Cocorico, Anatomie d'une chute, a remporté le BAFTA du meilleur scénario original après le Golden Globe et fort probablement avant l'Oscar que Justine Triet et Arthur Harari devraient remporter au Dolby Theater le 10 mars prochain. Ce qui leur laisse le temps d'ailleurs de peaufiner leur speech humoristique qu'ils ont tenté lors des BAFTA qui était plutôt drôle, mais pas autant que la présentation de David Tennant, notre Docteur Who préféré, ayant fait son entrée en tant que maître de cérémonie, avec le chien de Michael Sheen, son ami et comparse dans les séries Good Omens et Staged. Une cérémonie plutôt hilarante et bien animée, en espérant que les maîtres de cérémonie des Césars vont en prendre de la graine pour la cérémonie de ce soir qui se tiendra à l'Olympia, durant laquelle la Palme d'Or devrait triompher et faire le plein de récompenses avant les Oscars. Voilà. Et ensuite, une news ciné plutôt inattendue cette semaine, mais je voulais en parler, c'est qu'après Gladiator 2, Sir Ridley Scott il va réaliser un biopic musical sur les Bee Gees. Voilà, oui, vous avez bien entendu. C'est particulier, oui. Après, le monde de la mode dans sa satire House of Gucci, ou encore plus récemment Napoléon, qui était une espèce de farce un peu étrange sur Napoléon quand même. Mais on connaît Ridley, il est un peu comme ça, il aime bien faire des farces. Le réalisateur du coup de Alien et Blade Runner a été choisi par le dernier des trois frères Jib, encore en vie, présent également sur le projet comme producteur exécutif, bien sûr, pour porter l'histoire du groupe de disco culte. Un choix peu surprenant au final quand on sait que le cinéaste britannique a toujours été proche des Bee Gees, notamment de leur manager Robert Stigwood, Deadline qui a annoncé la nouvelle, a même ressorti un projet de film avorté pour lequel Scott avait déjà été choisi en 1970, 7 ans avant son premier film Les Duellistes, alors qu'il officiait encore dans la pub et le clip à l'époque. Le film s'appelait Castle Accident et il devait diriger Robin, Morris et Barry, donc les trois frères du groupe Bee Gees, avant que le projet ne soit finalement abandonné. Produit par Paramount Pictures, récemment derrière Bob Marley One Love, justement, qui vient de confirmer que le public musical est toujours populaire, sachant que ceux d'Amy Winehouse et Michael Jackson sont en train d'arriver aussi. Hein. Le scénario sera écrit par John Logan, scénariste qui a déjà travaillé avec Scott sur Predator et Alien Covenant, deux tangentes, hein. Et également scénariste de Michael, le biopic sur Jackson, du coup, réalisé par Antoine Fuqua, le réalisateur d'Equalizer, avec le neveu du chanteur dans la peau du roi de la pop, dont la ressemblance physique est assez troublante sur le premier cliché sorti récemment. D'ailleurs, moi, j'étais assez surpris quand même. C'était assez impressionnant. Aucune date de sortie ou annonce de casting en vue pour le moment, mais selon Deadline, le film ressemblera à Bohemian Rhapsody. Voilà, ça fait un peu mal. Voilà. Donc Hugo, bonne ou mauvaise nouvelle tout ça?
C'est mitigé, hein. Franchement. Ouais.
On a peur un peu, hein, quand même. Ouais. Moi je suis un peu effrayé, là. Franchement j'avoue que... Ouais.
Puis bon, moi j'ai un peu peur aussi que les gens se lassent du biopic musical. Là. J'ai l'impression que comme ça marche, on en fait à l'appel et...
Ça va finir par lasser. Oui,
ça va finir par lasser.
En plus c'est un genre qui a eu... À la fois, il y a eu
âge d'or. Il y a eu des bons élèves et des mauvais élèves.
Voilà,
aussi,
mais il y a eu un âge d'or, mais il y a eu aussi une retombée. Et puis là, ça remonte un petit peu, ça va sûrement retomber encore. Enfin, voilà, c'est selon les goûts des gens, j'ai envie de dire un petit peu. Mais bon, c'est toujours comme ça un petit peu avec les genres à Hollywood. Voilà, c'était les actus de la semaine. Place maintenant aux sorties. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. Campus, campus, campus. Et on commence tout de suite avec l'une des plus grosses sorties de la semaine, on va dire. C'est L'Empire de Bruno Dumont.
Éteins son proche.
Sire, vous voici enfin parmi nous.
Ne tardons pas.
Nous livrons bataille pour la cause dont vous êtes la souveraine. Ici, sur la Terre.
Vous n'avez pas vu un ovni?
Un quoi?
Un ovni.
Les humains sont attachants.
C'est pour cela que nous allons envahir la Terre tout entière.
Le prince des ténèbres doit être enlevé de la surface de la Terre.
Celui qui touche à mon Freddy, il y a deux pieds à sa gueule.
L'entreprise est vouée à l'échec.
La gendarmerie sur le coup.
Mais les humains, Johnny, sont nuls.
Faites attention à ce que vous dites. Vous vous adressez quand même à la gendarmerie nationale.
So what?
Présenté en compétition à la Berlinale 2024, c'est quand même étrange de le voir avoir cette place-là. L'Empire est le nouveau long-métrage de Bruno Dumont, le réalisateur notamment de Malout, de la série Petit Quinquin et Petit Quinquin et les Inhumains, diffusé sur Arte, ou plus récemment France avec Léa Seydoux. Comme son nom l'indique, de manière très subtile, l'Empire est revendiqué par son réalisateur comme son Odyssée spatiale, son Star Wars, ou plutôt son Ch'tartouille, de cette manière je dirais un petit peu, car l'Empire reste dans le ton des films précédents de Bruno Dumont, avec ses personnages issus de la France profonde, ses comédiens non professionnels, aux gueules cassées et aux jeux faussement mauvais. Au milieu de ces acteurs amateurs, on retrouve tout de même des comédiens de prestige qui sont prêts au jeu de se mêler à ce ton si particulier du cinéaste, à commencer par Fabrice Luchini, que vous avez pu entendre dans un mélange entre Dark Vador et le Baron Harkonnen, ce qui tombe bien, puisque d'une deuxième partie sort mercredi prochain, et qu'à la base, le film devait sortir d'ailleurs la même semaine, il devait sortir tous les deux sur la même semaine, et finalement il y a eu un petit décalage. J'aurais bien voulu voir le match entre les deux, si ça aurait fait un Barbie Oppenheimer, mais avec l'Empire et d'une deuxième partie.
Sûrement.
Sûrement, ça aurait fait un beau match, je pense. Mais du coup, Dumont retrouve Luchini après Malout, ou encore aussi Camille Cotin et Lina Koudry. Mais pourtant, l'Empire n'est pas juste une parodie de la guerre des étoiles de George Lucas. Hein. Il s'agit bel et bien pour le cinéaste de prendre le genre très au sérieux, d'en épouser les codes de manière jusqu'au boutiste en créant son propre univers avec des planètes antagonistes, les vaisseaux de l'Empire qui prennent ici la forme de cathédrales, le sacré étant déjà présent dans le cinéma de Bruno Dumont, notamment dans Jeanne, qui était tourné en partie à la cathédrale d'Amiens d'ailleurs, dans lequel une petite fille jouait Jeanne d'Arc pour accentuer le caractère encore plus ridicule de sa condamnation par l'Église au bûcher. L'Empire ressemble donc bel et bien à un film de Bruno Dumont dans lequel on retrouve ses obsessions, son humour et sa poésie. Pourtant, le space opéra ne prend pas toujours lorsqu'il se mêle à son ton et au décor du nord de la France, donnant des purs moments nanardesques où l'on ne sait pas trop si cela est de la volonté de son auteur ou non, mais il faut bien reconnaître que Bruno Dumont croit dur comme fer en son épopée spatiale à la sauce Petit Quinquin et les Inhumains, dont il semble être une suite avec le retour de certains de ses personnages, notamment ce commissaire un peu, enfin ce commandant un peu bizarre, qui a des mimiques un peu étranges, tout ça. Voilà. On ne sait pas trop d'ailleurs si pareil, si c'est dû à l'acteur lui-même ou si c'est juste encore un comédien non professionnel aussi et que c'est quelque chose qui vient de ce décor très naturel. Voilà. Mais Dumont, c'est comme si Dumont avait fait son cinematic universe d'une certaine manière, on peut le dire comme ça. Comme on dit, ça passe ou ça casse, mais ça a le mérite d'exister, donc on vous encourage à aller vous faire votre propre avis, c'est actuellement en salle.
Les forces adverses sont redoutables.
Même si on est ennemi, t'es vraiment belle.
Tu veux que je te la dégage ?
Utilisons la force, on a la sagesse.
T'as pas peur du démon, toi ?
J'ai surtout pas peur des hommes.
C'est quoi, ça ?
C'est une belle bande de losers.
C'est peu de le dire.
Oh, on s'en prend plein la gueule.
À la bataille ! Les quatre viennent, mon empire!
Bah, elle est où la voiture?
Ouais, elle est là, la voiture qui a parti.
Et on enchaîne avec une autre sortie de la semaine, le premier long métrage du réalisateur britannique James Hawes, Une vie avec Anthony Hopkins.
Dis-moi une chose, est-ce que tu penses aux enfants, à ce qu'ils ont pu devenir?
Oui, ça m'arrive de temps en temps. Et toi ?
Et maintenant, une histoire extraordinaire qui vient d'être révélée au sujet d'un jeune homme qui est allé il y a bien longtemps visiter Prague. Il a découvert là-bas des milliers de réfugiés abandonnés et à la merci de l'invasion imminente d'Hitler.
Il y a des enfants ici qui vivent en plein air dans la boue. J'ai vu, rien ne saura l'effacer.
Un déplacement massif d'enfants qui n'ont ni argent ni visa.
Écoutez, nous devons tout faire pour croire que ça peut être possible.
Premier long métrage du coup de son réalisateur britannique, James Hawes. Une vie met en lumière un héros ordinaire mais méconnu du grand public et porté à l'écran ici pour la première fois, à savoir Nicolas Winton, surnommé notamment le Schindler britannique et incarné par Johnny Flynn dans les années 30, vu dans la série notamment Lovesick. Et l'illustre Anthony Hopkins, que l'on ne présente plus, dans les années 80, basé sur le livre écrit par sa fille Barbara Winton, If It's Not Impossible, Une vie relate l'histoire de Nicolas sur deux époques, à la fois en 1938, où il était un courtier londonien qui a organisé en 1939 la fuite à Londres de 669 enfants tchécoslovaques, la plupart juifs, qui devaient être conduits dans les camps de concentration, un sauvetage que Winton a gardé secret pendant 50 ans avant que sa femme ne découvre dans leur grenier un journal dans lequel il avait tout consigné. Son héroïsme sera alors dévoilé et salué au grand jour lors d'une émission de la BBC nommée That's Life en 1988, où le public était composé d'anciens enfants qu'il avait sauvés. Décédé en 2015, Nicolas Winton était donc la définition parfaite du héros ordinaire, capable de faire des choses extraordinaires, à l'image d'Oscar Schindler auquel Steven Spielberg consacra son chef-d'œuvre La Liste de Schindler, auquel Une vie fait inévitablement penser, toute proportion gardée dans la comparaison. Au point qu'il en reprend même cette célèbre expression issue de l'hébreu, comme quoi celui qui sauve une vie sauve le monde. Winton aura été humble jusqu'à sa mort, puisque lorsque les producteurs du film l'ont rencontré, il a même insisté pour que le film mette avant tout en avant le fait que des gens parfaitement ordinaires peuvent réellement faire bouger les lignes. Anthony Hopkins incarne parfaitement ce vieil homme modeste et ordinaire, tout en retenue, dans une performance qui rappelle plus récemment son rôle de grand-père dans le très beau Armageddon Time de James Gray, beaucoup moins dans la démonstration d'acting par rapport à The Father, qui lui avait valu son second Oscar en 2021, plus de 25 ans après Le Silence des Agneaux. Hopkins suscite donc vraiment l'empathie dans des scènes vraiment poignantes, notamment la reconstitution de l'émission de la BBC That's Life, durant laquelle Nicolas a retrouvé ses enfants, puisque les survivants sauvés par Winton se sont surnommés les enfants de Nicky's Children en VO. Tandis que Johnny Flynn incarne plus le personnage dans son versant héroïque, son acte de résistance, étant relaté dans le métrage comme une véritable course contre la montre, digne d'un thriller d'espionnage, dans son rythme assez haletant. Peut-être parfois un peu didactique dans l'académisme de sa mise en scène, n'ayant pas les galions d'un Spielberg non plus, hein, c'est son premier film, faut pas déconner, James Hawes prouve néanmoins qu'il a compris la nécessité du devoir de mémoire que représente la Shoah au cinéma, sujet toujours aussi actuel, quelques semaines après la sortie de La Zone d'intérêt, de Jonathan Glazer notamment. Et comprendre cette nécessité, et ce, dès son premier essai derrière la caméra, c'est quelque chose qui est à saluer et qui fait de Une Vie un premier long-métrage plutôt respectable, porté par un Anthony Hopkins qui nous bouleverse encore une fois avec une force tranquille. C'est pas pour rien qu'il est l'un des plus grands, me direz-vous. Une Vie, c'est donc actuellement en salle, et on vous le conseille plutôt.
Il y a un millier d'enfants sur cette liste.
Alors on va activer tout ça.
Vas-y, tout de suite!
Ce doit être très difficile pour vous, sachant ce qui est arrivé à tous ces enfants.
En fait, je ne sais pas ce qui est arrivé.
Notre émission est loin d'être terminée. J'ai une question. Y a-t-il quelqu'un ici dans ce studio dont la vie a été sauvée par Nicolas Winton? C'est bien qu'on ne peut pas tous les sauver. Il va bien falloir que tu te pardonnes ça.
Qui sauve une vie, sauve le monde.
Et on continue avec le deuxième long-métrage du réalisateur français Xavier Legrand après Jusqu'à la garde, Le successeur.
Vous êtes en danger, monsieur? Vous pouvez parler?
On brainstorm encore sur le titre. Elias Barnes, le nouveau prince de la mode.
Super, Elias. Lève un peu le menton.
Il va falloir faire une pause. La police est là.
A été quelqu'un de... marquant.
J'ai tout fait pour pas y ressembler.
5 ans après l'Uppercut qui était son premier film, l'excellent Jusqu'à la garde, l'acteur Xavier Legrand fait son grand retour derrière la caméra pour son second essai en tant que réalisateur, Le successeur. Comme pour son premier film, ce deuxième film est le second opus d'une trilogie en cours qui évoque le patriarcat. Après les violences conjugales dans Jusqu'à la garde, Le successeur continue donc à creuser ce sillon dans le registre du thriller psychologique qui sied est très bien à son cinéaste, à travers l'histoire d'Elias, incarné par l'excellent acteur québécois Marc-André Grodin, qui délivre une performance absolument folle dans la peau d'un couturier qui devient le nouveau directeur artistique d'une célèbre maison de couture française, un successeur donc. Mais lorsqu'il apprend le décès de son père d'une crise cardiaque avec lequel il ne partageait pas grand-chose, Elias doit se rendre au Québec pour aider la succession. Il retrouve vite l'accent qu'il avait camouflé en France, comme pour nous signifier qu'il retrouve ses origines dans ce qui n'est que le début d'une excellente étude de caractère de personnage masculin complexe dans l'écriture. Le jeune créateur va alors découvrir ce qu'il a hérité, et il a hérité de bien pire que du cœur fragile de son défunt père. Et difficile de vous en dire plus sur l'intrigue, ce synopsis ne relatant que les 20-30 premières minutes du métrage, et il vaut mieux aller voir Le successeur en sachant le moins de choses possibles sur l'intrigue. D'ailleurs, la bande-annonce en dit très peu et c'est très bien comme ça aussi. Une intrigue qui est parsemée de rebondissements que nous assène le cinéaste comme des vrais coups de massue. Après Jusqu'à la garde, qui plaçait déjà la barre très haute en termes de tension, notamment dans un final qui était ahurissant, Xavier Legrand fait de nouveau preuve d'une grande maîtrise formelle dans le genre, où tout passe par la mise en scène, qu'il s'agisse de cette forme circulaire d'une spirale omniprésente dans les décors, un motif qui symbolise la descente aux enfers dans laquelle le personnage d'Elias va être emporté de manière inévitable. Legrand emprunte évidemment au plus grand, de Hitchcock pour ses symboles freudiens, à Fincher pour la froideur clinique de son personnage, mais tout en inscrivant ce nouvel essai dans la lignée des obsessions de son premier film. À travers cette histoire de succession, donc, le cinéaste nous parle de la manière dont la masculinité toxique est transmise de père en fils comme une malédiction qui ne toucherait que les hommes. C'est un film sur des hommes qui sont des bourreaux pour d'autres hommes, pour reprendre littéralement les mots d'attention de Xavier Legrand. Si Le successeur n'est pas toujours aussi solide que Jusqu'à la garde dans son écriture et dans son propos sur le patriarcat, usant parfois de grosses ficelles d'écriture pas toujours subtiles dans le scénario, il n'en reste pas moins un thriller psychologique d'une maîtrise tout aussi redoutable que son premier film, porté encore une fois par les performances de ses comédiens dirigés d'une main de maître, dont un Marc-André Grodin qui trouve tout simplement son meilleur rôle. C'est notre meilleur conseil de la semaine, donc foncez.
Monsieur Barnes.
Monsieur Barnes.
Monsieur Barnes, pas bien.
Et maintenant, un petit rattrapage sur l'une des dernières sorties de la semaine dernière dont on n'avait pas parlé, mais on s'est dit que ça serait quand même sympa d'en parler. Il s'agit de Vivant.
Je suis désolée, on part en tournage là. J'ai dit ok pour te rencontrer, mais j'ai rien promis. Tout le monde veut bosser avec nous, hein. C'est quoi ton truc? Je sais réparer une caméra. Ça, on a des gens pour ça, hein.
Allez.
Vincent, le rédacteur en chef de l'émission.
Merci.
Chouchou.
Bon, on y va?
Prends-la avec toi.
Patrick!
Ah mais vous vous débrouillez, vous passez, hein. Vous rentrez pas sans rien.
Ok, on va se démerder.
Je peux filmer si tu veux, j'ai la caméra de secours.
L'émission, elle est pas que sur la police?
Non. Qu'est-ce que vous faites? Je pouvais pas savoir.
Tu fermes ta gueule.
Un truc à faire, c'est le matos. Concentre-toi là-dessus, putain de merde.
Ok, on recommence un peu plus vite.
Troisième long métrage de la cinéaste Alix Delaporte, après Angèle et Tony et Le dernier coup de marteau, on s'est dit qu'il serait dommage de ne pas vous parler de Vivant, sorti la semaine dernière. On y suit Gabriel, incarné de manière assez excellente par Alice Izaz, jeune reporter de 30 ans qui intègre une prestigieuse émission de reportage. Très vite, elle doit trouver sa place au sein d'une équipe de grands reporters, une équipe un peu caricaturale dans la caractérisation très grossière de ses personnages. Il y a Vincent, le rédacteur en chef charismatique et mystérieux parce qu'incarné par Roche Dizem, qui est évidemment excellent. Damien, le fou de la bande, incarné par Vincent Elbaz. Camille, la maman du groupe, incarnée par Pascal Arbillot. Ou Pierre Lotin, qui continue à s'émanciper joliment des tuches pour incarner ici le Jean Foutis de cette troupe. Une troupe semblable donc à une famille, quelque part, thématique déjà au centre des deux précédents films d'Alix Delaporte, qui puise ici dans son propre vécu, ayant fait ses débuts en tant que journaliste caméraman à l'agence Kappa. Une famille du travail, donc, que la cinéaste filme avec une sincérité et une humanité débordante pour ses personnages de reporters qui ne sont pas sans rappeler ceux d'un certain Spotlight, grand film américain sur le journalisme qui avait cartonné aux Oscars en 2016. S'il semble très calqué sur son modèle américain dans son écriture, dans son montage où l'on filme des reporters derrière un bureau comme dans une course contre la montre de l'information, Vivant vaut surtout pour sa réflexion sur le pouvoir des images, sur leur importance dans notre société actuelle où l'information est devenue omniprésente et sur leur capacité à retranscrire le réel. Et aussi pour son casting 5 étoiles qui brosse une belle étude de personnages à travers cette bande de reporters, un poil caricatural parfois, mais on ne peut plus humain. C'est toujours en salle et c'est un rattrapage qu'on vous conseille.
Une attaque à Bangui. Mais là, il y a 128 morts.
Un gilet pare-balles ?
L'international, ça marche plus. On a besoin de rêver, c'est comme ça.
Les trois quarts de la planète sont en train de crever, lui, il nous manque du rêve.
Qu'est-ce qui se passe ?
Damien s'est fait shooter.
Je le cherchais.
Je suis contente de te voir.
C'est là qu'il s'est pris la balle.
Et il a des images ? C'est la chaîne qui me demande.
Tu crois qu'on peut le diffuser ?
Les gens veulent plus voir la mort.
Ouvre l'œil. Imagine que t'as un lion qui passe à côté de toi, et ben, tu le vois.
Tu te fais bouffer quand même.
Oui, mais au moins t'as l'image.
On est en train de sauver des vies, là, donc.
Et vous en faites quoi après ? Vous les mangez ?
3 heures à tout dérocher pour vous entendre rigoler comme des cons.
Vous bossez pour un groupe. Quand est-ce que vous allez comprendre ça ?
J'ai pas fait tout ça pour filmer les défilés, ça me casse les couilles de faire ça, en fait.
Elle est où, la petite ?
Essaie d'aller à l'essentiel. Fais comme si t'avais qu'une seule question. Vous voulez vraiment vous accrocher à une émission qui a plus de 15 ans ?
C'est notre taf, hein. On filme.
Dans les recos en bref dont on n'a pas le temps de parler, il y a Sleep, premier film d'horreur du coréen Jason Yu qui a terrifié Gérard May dont il est reparti primé du Grand Prix. Ce n'est pas encore en salle sur Amiens pour l'instant, mais on espère que ça va arriver très vite. Par contre, il y a le film d'animation chinois Le Royaume des Abysses de Tian Xiaopeng, pardon, qui est visuellement somptueux, mais pas forcément conseillé pour les jeunes enfants ou les plus sensibles, car c'est vraiment psyché, dense et foutraque visuellement parfois, donc plutôt pour les aguerris de l'animation psyché, je dirais. On vous en parlera peut-être lors de notre prochaine émission, si on a le temps, si un certain d'une deuxième partie de Denis Villeneuve ne prend pas trop de place dans les sorties de la semaine prochaine. On l'attend fermement, hein, n'est-ce pas Hugo ?
Oui.
Moi, je l'attends beaucoup. Et voilà, Parlons Ciné, c'est fini pour ce soir. Je remercie Hugo de m'avoir accompagné encore une fois à la technique qui est toujours fidèle à cette émission. Merci Hugo.
Merci à toi Ben.
Bah, je t'en prie.
C'est toujours un plaisir de parler ciné avec toi.
Bah, moi aussi, c'est toujours un plaisir de parler ciné avec toi et d'en parler aussi à nos chers auditeurs. Et merci à eux du coup d'avoir été à l'écoute ce soir encore une fois sur Radio Campus, là où nous parlons ciné. Salut à tous et à la semaine prochaine. Ciao.